France Inter. Amélie Perrier, le 6-9 de l'été.
Le grand entretien du dimanche vous emmène vers l'infini et l'au-delà, enfin vers la Lune, car il y a 50 ans, jour pour jour, Neil Armstrong devenait le premier homme à y poser le pied. Pour en parler ce matin, un couple mythique aussi, Claudie et Jean-Pierre Aigneret. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous vous souvenez, vous, de cette nuit du 20 au 21 juillet 1969, vous Claudie, vous aviez 12 ans.
J'avais 12 ans, effectivement, petite fille en vacances en famille et en camping au bord de la mer et regardant ce seul écran de télévision où l'ensemble du camping était rassemblé pour vivre tous ensemble ce moment fascinant, magique, qui m'a beaucoup impressionné. Oui.
Et vous Jean-Pierre, vous aviez 21 ans,
oui,
c'est un souvenir marquant aussi?
Oui, très marquant parce que c'était le début d'une vie professionnelle pour moi. J'étais en maths spé à Saint-Louis et en fait, au moment précis où Armstrong a posé le pied sur la Lune, j'étais sur le quai de la gare de Dijon dans un train qui m'amenait à Montpellier où j'allais en sélection en vol pour le concours de l'ENAC. J'avais passé le concours de l'école de l'air aussi, ayant découvert que par des concours on pouvait être pilote. Et donc quelques heures après, j'allais approcher un avion de près pour la première fois et pour m'asseoir dedans, le piloter et être sélectionné.
La vocation était déjà là alors ?
Non, je l'ai vraiment découverte. La vocation dans mes rêves, elle y était, mais j'avais jamais fait le lien entre ce rêve très personnel, qui habitait d'ailleurs certaines de mes nuits. Je me souviens à cette époque que je me voyais étendant les bras et voler et en avoir un plaisir inouï. Mais en fait, j'avais vraiment découvert que ça m'était accessible en remplissant les candidatures au concours auquel me proposait donc ma situation en maths spé. Et pour moi, ça a été vraiment un emballement. C'est la première fois que j'ai senti que le rêve et la réalité pouvaient se toucher.
Et vous, Claudie, à 12 ans, ça vous semble possible ou c'est un rêve complètement irréaliste de faire comme Neil Armstrong?
Alors, pour compléter, effectivement, le rêve ce soir-là, c'était devenu une réalité. Quand on est enfant, on a plein de choses imaginaires dans la tête. Et là, ce jour-là, ça se passait réellement. Et je crois que c'est ça qui a fait un peu le déclic. J'ai pas décidé à cet âge-là de devenir astronaute. Il n'y a pas d'école d'astronaute. Mais par contre, ça m'a donné la force et probablement l'audace au moment où l'opportunité s'en est présentée de dire mais pourquoi pas et de tenter ma chance.
Et vous avez fait médecine, hein, neurosciences. Vous, Jean-Pierre, c'est plus côté ingénieur, pilote.
Bah, j'étais pilote de chasse initialement. C'est-à-dire que c'était la guerre froide et je m'entraînais à résister contre une invasion soviétique. Et en fait, en 99, à mon deuxième vol, j'ai volé pendant 6 mois avec un pilote de chasse ex-soviétique qui s'entraînait à faire exactement la même chose.
Mais c'est la même attirance, vous deux, vous du côté de la médecine, vous du côté du pilote de chasse, vers l'espace.
En 1985, il y a eu cette sélection de l'agence française, le CNES, qui avait ouvert les profils d'astronautes, les candidatures assez classiques, je dirais, militaires, pilotes de chasse, pilotes d'essai, et puis les candidatures scientifiques. Donc effectivement, on s'est retrouvés en portant un rêve identique d'aller dans l'espace, de connaître la microgravité, pour y exercer une activité sur laquelle on avait une expertise professionnelle. Moi, j'étais médecin rhumatologue avec une thèse en neurosciences. Et effectivement, pouvoir être un scientifique à bord d'un laboratoire orbital, c'était quelque chose qui me tentait beaucoup.
Alors Claudie Aigneret, vous allez dans l'espace, vous réalisez ce rêve. En 2001, France Inter vous a confié un petit enregistreur, vous vous souvenez ?
Absolument.
Pour consigner vos impressions, vos images, quand vous êtes tout là-haut dans l'espace, on va en écouter un extrait.
Il est 8h15, 20h15, heure de Greenwich. On doit avoir fermé l'écoutille à 1h30. Et je viens de me faire un grand plaisir. On avait du temps libre, là, qui était normalement consacré au sommeil. Mais en fait, j'ai pas dormi du tout et personne d'entre nous n'a dormi. On s'est réveillé plus tard ce matin. C'est pas un problème. Mais je me suis fait un grand plaisir et je me suis accordé toute une orbite au grand hublot du laboratoire Destiny. Avec mon appareil de musique, mon mini-disque avec Mozart, concerto 21-22. J'ai commencé par la nuit, éclairée de milliers d'étoiles, dans un cosmos tout noir, c'était magnifique. Au fur et à mesure, les étoiles de plus en plus nombreuses, et la Terre qu'on voyait de moins en moins disparaître complètement, puis un cosmos noir complet. Et ensuite le jour qui commence à se lever. Progressivement, on sort de la nuit pour se précipiter à 28 000 km/h dans le jour. On voit bien cette distinction entre jour et nuit à la périphérie de la Terre.
On touche au sublime, là, Claudie Aigneret.
Je crois qu'on atteint effectivement des moments qui sont contemplatifs, à la fois parce que le spectacle est effectivement magnifique, d'une grande beauté, d'une grande poésie, des couleurs somptueuses, très harmonieuses, à la fois la fragilité et l'oscillité de ce cosmos. Et je dis souvent d'avoir aussi ce corps léger, en microgravité, qui ne pèse plus rien. On est un peu hors corps, on est un peu hors de son état d'esprit habituel. Donc, ça se ressent dans cette émotion.
Oui, on sent votre voix très calme. Et vous, Jean-Pierre, vous avez eu ce genre de moment aussi ?
Bien sûr, en plus sublimé par la musique de Mozart.
Vous aussi, vous emportiez la même musique quand vous voliez.
Oui, entre autres, mais la musique française aussi, parce que mon deuxième vol, c'était 6 mois, donc il fallait que je garde un peu contact avec mon identité. Mais oui, on vit des moments absolument exceptionnels, je crois, quand on a la chance de vivre ça, de voir cette vision à la fois très, très inquiétante, parce que le cosmos tout noir, le soleil très agressif, on peut pas le regarder de face, le soleil dans l'espace. Et puis cette terre, finalement, si finie, si fragile et si belle dans un environnement cosmique qui est complètement noir et gris, on se rend compte, oui, il y a un moment où on touche à l'essence de sa vie, de sa propre vie. Et en tout cas, après une expérience comme celle-là, on sait qu'on ne peut pas avoir raté sa vie.
Et est-ce que c'est compliqué de redescendre sur Terre après ce genre d'émotion, ce genre d'expérience ?
Ça peut l'être si effectivement vous ressassez, si vous n'avez pas une autre occupation en revenant de vol et que vous ressassez éternellement, comme bien sûr on est à tendance à le faire, on pourrait le faire, c'est très attractif de repenser, revivre ces moments parce que ils ont une telle intensité que ils sont bien au-delà de tout ce qu'on peut vivre dans la vie normale, mais en même temps la vie normale elle est sur Terre et c'est vrai que l'être est social aussi, donc voilà, ça réveille une facette, ça sublime une facette de sa propre personnalité, de sa propre vie. Et après il faut rapidement penser à autre chose et passer dans l'action, ce qui est un peu d'ailleurs la nature à la fois des chercheurs et des pilotes d'essai ou des pilotes de chasse.
Et ça a été une force de pouvoir le partager ensemble tous les deux? Parce que c'est une expérience très rare. Nous, commun des mortels, on ne comprend même pas ce que ça peut faire d'être là-haut et de voir ce genre d'image.
Oh, clairement, c'est quelque chose qui nous est très, très cher. Effectivement, on est, je crois, aujourd'hui 575 astronautes dans le monde. Donc, on sait qu'on est vraiment des privilégiés à avoir vécu ces moments. Jean-Pierre a eu la chance d'avoir 2 missions spatiales en 93 et 99. Moi-même, 2 missions en 96 et 2001. Une vie passée à s'entraîner ensemble, à partager les difficultés, les joies et à partager ces moments intenses dont on vient de parler. Oui, c'est encore plus privilégié de le faire comme ça en couple.
Claudie et Jean-Pierre Aigneret, vous êtes les invités du grand entretien de France Inter. Claudie Aigneret, vous avez été la première française dans l'espace, la première européenne qualifiée pour le commandement de Soyouz. Ça a été un combat pour vous imposer dans ce milieu ?
Ah, pas du tout. J'ai dit...
Il y avait de la place pour les femmes ?
Voilà, la sélection de 85 dont je parle, qui était ouverte donc à des profils scientifiques et à des profils civils, donc pas de différence. Il y avait 10% de candidates femmes sur l'ensemble des 1000 candidats. Et donc effectivement, j'ai été la candidate retenue parmi les 7. Et ensuite, j'ai été, parce que j'en avais l'expertise, les compétences associées à la préparation d'expériences avec les partenaires russes, les partenaires américains, puis affectée à une mission, même sélection, même entraînement, bon, des différences physiologiques bien sûr pour certains types d'activités, et puis même contribution au succès de la mission. Et même si on a des profils différents, à bord, on est multitâche. Le scientifique devient un peu ingénieur, l'ingénieur devient un peu scientifique, avec bien évidemment une expertise spécifique sur un domaine. Mais ce long entraînement nous prépare effectivement, en équipage, avec chacun ses diversités, à assurer le succès d'une mission qui est préparée quand même par des équipes importantes de scientifiques, d'ingénieurs, d'instructeurs au sol et dont on porte à un moment la responsabilité.
Cet anniversaire, c'est l'occasion aussi de se poser la question de la conquête de l'espace aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore une conquête à mener, Jean-Pierre Aigneret ? C'est plus la Lune, c'est peut-être Mars ?
la conquête de ses rêves déjà. Hein. Je pense que le vol habité, c'est à la fois une affaire rationnelle, c'est de la technologie, c'est de la science, et puis c'est aussi une immense expérience personnelle. Et pour le public, dont on voit bien qu'il réagit très positivement à cette aventure au travers les années, mais depuis 61, le premier vol de Gagarine, on voit qu'il y a toujours ce soutien permanent, cet intérêt, cette fascination. Parce que l'essor, le progrès technologique est quelque part un peu synonyme de progrès dans la vie, de progrès social, d'ouverture, de liberté aussi. C'est ça que donne la technologie. Ça a permis à des hommes comme vous et moi, ou des hommes et des femmes hein, comme vous et moi, de pouvoir poser le pied sur la Lune. Donc c'est l'intelligence d'ingénieurs, le courage d'autres qui permettent de se surpasser et de faire en sorte que l'homme reste un peu comme Ulysse, le héros de son destin, le héros de son aventure. Et c'est des choses qu'on a du mal à vivre aujourd'hui, parce que l'homme est un peu écrasé par les systèmes. Et cet enthousiasme est là.
Le président Macron a annoncé la semaine dernière la création d'un commandement de l'espace à Toulouse. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean-Pierre Régnoret, en tant qu'ancien pilote de chasse, de cette militarisation de l'espace ?
Oh, ça, c'est pas par une décision comme celle de... Je pense que le président a fait un constat. Un constat évident, c'est que l'espace est militarisé déjà depuis de nombreuses années. En ce qui concerne même la France, elle a développé des moyens militaires depuis des dizaines d'années.
Mais maintenant,
des moyens de transmission.
On parle d'attaques contre nos satellites, par exemple, qu'il faut protéger avec des moyens militaires.
En particulier à cause d'une actualité récente où un de nos satellites militaires de transmission, de communication, a été visité par un satellite d'une nation étrangère. Avec
un satellite russe, oui.
Un satellite russe, en l'occurrence, avec tous les risques que ça représente. Ouais. Le problème aujourd'hui, c'est que l'espace est devenu tellement important à la fois pour les militaires, pour l'économie, dont l'économie, c'est aussi la défense. Hein. Si une économie d'un pays s'affaiblit, eh bien, c'est un problème de défense qui se pose. Donc, ces moyens spatiaux dédiés sont devenus tellement importants pour la conduite des opérations, la conduite de l'économie, qu'il faut absolument, il est crucial, il est stratégique de les protéger. Et donc, il est tout à fait normal de créer une structure qui sera de toute façon une structure interarmes, c'est-à-dire que même si elle est à l'intérieur de l'armée de l'air, et c'est un grand honneur de l'armée de l'air d'avoir à diriger cette troisième dimension qui lui appartient presque de manière naturelle, mais ce seront des sujets qui sont traités de manière interim, puisque les satellites, l'espace intéresse bien sûr la marine, l'armée de terre. Aujourd'hui, on ne peut plus que faire une opération terrestre sans utiliser à la fois pour la communication, l'envoi d'images, les satellites militaires. Donc, c'est une décision tout à fait naturelle, normale, qui n'est pas complètement une rupture, je ne pense pas. Elle s'accompagne quand même d'un financement particulier, un peu plus de 3 milliards, je crois, sur une certaine durée. Et en tout cas, ça va permettre de rationaliser tous ces moyens et de les communaliser entre les différentes forces.
Parlons justement des moyens. Claudie et Jean-Pierre Régnoret, vous avez toujours travaillé pour des organismes publics, le CNES ou l'Agence spatiale européenne. Aujourd'hui, il y a des nouveaux acteurs, des acteurs privés dans l'espace. On pense à SpaceX, d'Elon Musk. Que pensez-vous de cette privatisation de l'espace ?
Pour moi, ça fait partie d'un paysage qui est une transformation générale de notre monde largement ouvert avec des puissances économiques et des puissances plus de souveraineté. Donc ça fait partie du paysage et je pense que ça accélère, ça donne des innovations, une créativité différente. Après, ça va nécessiter d'organiser un petit peu la façon dont tout ça se coordonne avec les règles qui vont bien, parce qu'on est dans un état d'esprit bien différent de celui du XXe siècle.
Aujourd'hui, on célèbre un anniversaire américain, Neil Armstrong sur la Lune. Mmh. Et l'Europe dans tout ça, Claudie Aigneret ?
Oui, le retour sur la Lune, c'est aussi un objectif de l'Agence spatiale européenne, de l'Europe, avec cette idée que cette grande aventure de l'humanité, elle va se faire en coopération internationale. Et c'est vraiment cet objectif qui est intéressant de se dire que en alliant alors des entités publiques tout autant que des entités privées, en essayant de coordonner, on va pouvoir aller plus loin, acquérir de la connaissance et puis développer tous les objectifs qui sont les nôtres. Et donc l'Europe a cette culture, a cette dimension de responsabilité aussi vis-à-vis de l'environnement de notre planète tout autant que de l'environnement Terre-Lune, qui est une préoccupation que que porte l'Europe. Et donc, cette spécificité, je dirais, elle est utile à la construction de la suite de l'expansion de l'humanité. Et j'aimerais vraiment que l'Europe, au-delà de sa contribution technologique, au-delà de sa contribution scientifique, ait aussi cette possibilité d'exprimer cette ambition au nom d'une coopération pacifique, globale et très ouverte.
Claudie et Jean-Pierre Aigneret, merci à vous.
Merci.